الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons donc commencer بإذن الله le premier cours dans l'explication de l'Urjuza al-Mi'iyya. Donc c'est un poème dans l'explication, donc c'est un poème dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je veux me baser essentiellement sur l'explication du noble cheikh Abdelrazzaq al-Badr. Bismillah ta'ala. Donc c'est un poème qui convient aux débutants. L'auteur, de manière générale, a résumé la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans rentrer dans les détails. Et il a été écrit, comme on va voir, par Ibn Abd al-Izz al-Hanafi. Il est aussi connu pour avoir expliqué l'aqida al-Tahawiyya. Donc il fait partie des savants de la Sunna. Et il a profité aussi d'Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Donc il faut savoir une chose, ya ikhwa, c'est qu'aucun musulman ignore les grands bénéfices qu'il y a dans l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les effets yani bénis pour le musulman qu'il y a ici-bas et dans l'au-delà. Et sa biographie sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des biographies, est la plus pure. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des pieux, le modèle de tous les gens et le maître des fils, donc des enfants d'Adam alayhi salam. Et l'étude de sa biographie est celle de celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il soit un modèle pour les serviteurs et pour les croyants. Allah dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah fréquemment. Et l'étude de sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam, augmente l'amour dans le cœur du serviteur et l'ancre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. C'est-à-dire, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant avant que je sois plus aimé pour lui que ses parents, ses enfants et l'ensemble de l'humanité. Et l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a un grand impact dans la concrétisation du fait de le prendre comme exemple. Car le fait de le prendre pour exemple est une branche de la connaissance de sa guidée et de sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est triste de voir certains jeunes à notre époque connaître la biographie de certains influenceurs, de certains footballeurs et de certaines stars et ne pas connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu lui demandes quels sont les enfants d'un tel, combien d'enfants il a, il te répond sans hésiter. Et quand tu lui demandes quand est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait même pas te répondre. Et il n'y a aucun doute, ya ikhwa, qu'il faut accorder de l'importance dans l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment prétendre suivre une personne alors qu'on ne le connaît pas? Comment prétendre aimer une personne alors qu'on ne le connaît pas? Donc, comme on a dit, on va donc commencer ce matn qui s'appelle Al-Urjuz al-Mi'iyya, qui est composé de 100 vers dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bi'idhnillah, celui qui maîtrise ce livre, bi'idhnillah, ce sera une entrée, une clé pour rentrer dans les livres plus détaillés. Incha'Allah ta'ala. Donc l'auteur commence en disant « Alhamdulillahi al-qadim al-bari, thumma salatuhu ala al-mukhtari ». Donc ici, il dit à Allah l'Ancien, celui qui donne commencement à toute chose, reviennent toutes les louanges, puis que sur le choisi soient ses éloges. Donc ici, l'auteur débute son poème en louant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que les savants ont dit que Alhamd, c'est Al-Thana ala Allah, Mahabbatan wa Ta'aziman. C'est ce que veut dire Al-Thana, c'est-à-dire les louanges appartiennent à Allah, ça veut dire Al-Thana ala Allah, Mahabbatan wa Ta'aziman. C'est-à-dire, c'est le fait de louer à Allah subhanahu wa ta'ala avec amour et glorification. C'est le fait, donc, de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala avec amour et glorification. Donc, il est loué pour ses noms et ses noms et ses attributs, et il est loué pour ses bienfaits. Donc, on ne peut ni compter ni dénombrer. Ensuite, la signification d'Allah. Il faut savoir qu'Allah, c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vers celui-ci que tous ces noms reviennent. Et aussi, donc, auxquels ils sont annexés. Et il signifie, donc ici le cheikh nous dit, ذُلْ أُلُوهِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ. Donc c'est celui à qui appartient la divinité et l'adoration de toutes ses créatures. Ensuite, il dit Al-Qadim. Al-Qadim, c'est l'ancien. Il faut savoir que l'ancien ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur lui-même l'a clarifié dans son charh d'At-Tahawiyya en disant que ceux qui utilisent donc ce mot-là, ce sont les spéculateurs, c'est-à-dire Ahlul Kalam. Tandis que les gens de la Sunna disent que ce nom ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a mentionné aussi Cheikh l'Albani, rahmatullahi alayhi. Ensuite, il dit Al-Bari. Al-Bari, c'est celui qui donne le commencement à toute chose. Et il fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes les créatures et celui qui crée à partir du néant. C'est ce que veut dire Al-Bari. Ensuite, il dit donc que les éloges, c'est-à-dire d'Allah, soient sur le messager, sur le choisi, Al-Mukhtar, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la signification de la prière d'Allah sur son messager, il faut savoir que selon la majorité des savants, salatullahi ala nabi, ils ont dit que c'était un rahma, la miséricorde. Quant à la prière des anges, ils ont dit que c'était, donc, la prière des anges, c'était l'istighfar, c'était la demande de pardon. C'est-à-dire quand on dit salatul malaika ala nabi, selon la majorité des savants, ils disent que c'est l'istighfar, la demande de pardon. Tandis que les êtres humains, c'est-à-dire Adamin, c'est Ad-Dua, l'invocation. Néanmoins, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayh, il dit que la vie prépondérante, c'est-à-dire le plus juste dans ça, c'est la parole d'Abul Aliya, qui est connue, et qui est rapportée par les gens de science, comme cela a été rapporté dans le Bukhari, dans lequel il dit, Salatullahi ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, huwa thana'uhu inda al-malaika. C'est-à-dire, c'est les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès des anges rapprochés. Et donc la prière des anges, c'est l'invocation. Donc c'est ce que ça veut dire sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de ses anges rapprochés. Ensuite, il dit رحمه الله وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. Donc ensuite voilà la biographie du messager, un poème dont les sections sont résumées. Donc après les éloges, il nous dit la biographie du messager. Il faut savoir que la biographie, dans dans sa terminologie linguistique, c'est-à-dire dans la langue arabe, ça veut dire la voie, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Néanmoins, quand celle-ci est annexée au prophète, c'est la meilleure des biographies. Et il n'y a jamais eu de biographie comme celle-ci et il n'y en aura pas. C'est-à-dire quand on dit la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des biographies et la meilleure des voies. De manière absolue. Tandis que quant à la signification de la biographie dans l'istilah, c'est-à-dire dans la terminologie religieuse, si on peut le dire, donc c'est le fait de mentionner les informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il rejoigne l'assemblée la plus élevée. En gros, c'est ça. Ensuite, il dit un poème. Donc, c'est un poème qui est composé de 100 vers. Et il faut savoir que les Arabes, de manière générale, et les gens de science, donnaient beaucoup d'importance au poème. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à maîtriser le texte et à le mémoriser. Ensuite, l'auteur a veillé à résumer sans rien manquer. Mais malgré le fait qu'il soit résumé, l'auteur a veillé de mentionner les sujets principaux. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans ces 100 vers les sujets principaux qui sont liés à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit en section, c'est-à-dire qu'il a organisé les sujets de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en suivant un ordre chronologique ou l'ordre chronologique des événements. Ensuite, il commence en disant, on va maintenant rentrer dans la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Mawliduhu fi ashir al-fadili, rabi'in al-awwal 'am al-fili. Donc il dit sa naissance eut lieu durant les dix du vertueux en Rabi' al-Awwal de l'année de l'éléphant. Ici donc il dit l'auteur a choisi et il est d'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 10 de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. Le 10 de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. Et ici, l'année de l'éléphant, il faut savoir que c'est l'année donc qui est connue sous le nom de l'année de l'éléphant du fait de l'histoire qui s'est passée avec Abraha lorsqu'il a été à la Mecque avec pour intention de la détruire. C'est l'histoire qui est connue. D'ailleurs, il y a une sourate, la sourate de l'éléphant qui a été révélée concernant cela, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant ? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile ? Et il les a rendus semblables à une paille mâchée. » Donc cette année-là fut connue sous le nom d'année de l'éléphant. Et il faisait partie des habitudes des Arabes, des Arabes et des gens en général de nommer les années selon les événements qui se passaient dans cette année-là ou dans ces années-là. Donc, vu qu'il s'est passé ça, ils ont nommé cette année-là l'année de l'éléphant. Ensuite, il dit لَكِنَّ مَا الْمَشْهُورُ ثَانِ عَشْرِهِ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ طُلُوعَ فَجْرِهِ. Donc, mais le plus connu est le 12, un lundi, l'aube pointant. C'est-à-dire que la majorité des savants, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né le 12 de Rabi' al-Awwal, pas le 10. Ici, l'auteur a choisi le 10. Néanmoins, la majorité des savants disent qu'il est né le 12. Ceci dit, Cheikh l'Albani, rahmatullah alayhi, dit que Ibn Kathir, rahimahullah, a rapporté plusieurs dates dans son livre. Et toutes ces dates-là, elles ont été rapportées sans aucune chaîne de transmission ou avec des chaînes de transmission faibles. Sauf une. Et c'est celle qui a été rapportée par Malik, rahimahullah ta'ala, l'imam Malik, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 8. Le 8 de Rabi al-Awwal. Et Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi dit que cette chaîne est authentique. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie par de nombreux muhaddithin. Donc cette chaîne-là, ça a été rapporté donc selon Malik d'après Mohammed ibn Jubair ibn Mut'im, qui est un nob tabi'i. Et il faut savoir que cette divergence au sujet de la détermination de la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des preuves qu'ont mentionné les savants pour dire qu'il n'y a aucune règle législative relative et qui découle justement de la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car s'il en découlait une règle religieuse ou un acte légiféré, il n'y aurait pas eu une telle divergence. Donc c'est pour ça que les savants ont interdit le Maulid al-Nabawi. Parce qu'ils ont dit, on n'est même pas, c'est-à-dire il n'y a aucune preuve claire et explicite pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né le 12 de Rabi al-Awwal. Et celui qui affirme un jour précis du mois de Rabi al-Awwal comme étant le jour de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'a pas de preuve claire de cette affirmation. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les preuves que les savants rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, donc l'année de l'éléphant, c'est ce qui a été rapporté par Ibn Abbas, dans lequel il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. Comme cela, Al-Dhahabi a dit, ceci est un hadith à la condition de, selon la condition de muslim. Et il a été rendu authentique par l'Albani, rahmatullahi alayhi. Il a été rapporté aussi selon Qais, Ibn Makhrama, dans lequel il dit « Ulidtu ana wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa nahnu lidatani » C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis né » dans lequel il dit le prophète, « Je suis né moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année de l'éléphant et nous avions le même âge. » Nous avons donc le même âge. Quant aux savants, ils ont divergé. Combien de jours après l'année de l'éléphant il est né? Et l'avis le prépondérant dans cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né 50 jours après l'année de l'éléphant. C'est-à-dire 50 jours après le début de l'année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né. Ensuite, il dit un lundi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit il est né. Donc, on a dit le 8, comme disent les savants, le 8, 10, 12, comme certains disent. La majorité disent qu'il est né le 12. De Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant, un lundi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Et les savants, donc Ibn Hajar, ont mentionné qu'il y a plusieurs événements qui se sont produits un lundi. Et il en a mentionné 5. Le premier, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est produite donc un lundi. Le deuxième, c'est que il lui a été révélé donc le Coran un lundi. Donc la révélation lui est venue un lundi. Il émigra de Mecca à Médine un lundi. Il est arrivé à Médine un lundi et il mourut un lundi, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce sont 5 événements qui sont produits un lundi. Et il a été rapporté, donc, de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur le jeûne du lundi et il dit, c'est en ce jour que je suis né et c'est le jour dans lequel j'ai été envoyé ou durant lequel la révélation m'est venue. Ensuite, il dit, wa wafaqa al-ishrina min Nisan wa qablahu haynu abihi Hana. C'est-à-dire cela donc correspondant au 20 de Nisan et avant cela de son père arriva le terme. Ça veut dire que la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam correspond au 4e mois de l'année grégorienne, c'est-à-dire en avril. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en avril. Ça correspond au mois d'avril. Donc, ya ikhwa, qu'est-ce qu'on connaît de la date du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est qu'il est né un lundi. Il est né, les savants ont divergé quant à ça, entre le 8, le 10, le 12 et d'autres dates ils ont mentionné aussi. Néanmoins, on ne les a pas mentionnées ici. Donc, qu'est-ce qu'on est sûr? C'est qu'il est né un lundi. C'est qu'il est né Rabi al-Awwal, l'année de l'éléphant. Ensuite, le shir mentionna le décès de son père. Donc il dit, et avant cela, de son père arriva le terme, c'est-à-dire la mort. Les gens de science ont divergé quant à la mort du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abdullah. Le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdullah. Les savants ont divergé, est-ce que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore dans le ventre de sa mère? Ou bien il est mort par après? Ça, ce sont deux paroles des savants. Néanmoins, l'avis prépondérant et le plus juste, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le ventre de sa mère lorsque son père mourut. Ça, c'est l'avis le plus juste. Et d'ailleurs, lorsque l'enfant décède alors que, lorsque le père de l'enfant décède alors que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, c'est le plus haut degré de l'orphelinage. C'est le plus haut degré. C'est-à-dire que l'enfant naît alors qu'il n'a pas de père. Et ça, c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans surat Ad-Duha, dans laquelle il dit, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ensuite vint son allaitement. Il dit, wa ba'da 'amayn ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu salima. Donc après cela, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après 2 années qui se sont écoulées après sa naissance, donc ici il dit, il devint sevré. Sevré, c'est quoi? C'est lorsque l'allaitement de l'enfant cesse. Quand l'enfant arrête de boire le lait de la mère, on dit qu'il est sevré. C'est le terme en français. Donc après deux ans d'allaitement complet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut donc sevré. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ » Donc, et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets, comme cela a été rapporté dans Sourate, donc a été rapporté dans Sourate Al-Baqara. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans Sourate Al-Baqara. Ensuite, il dit, halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Ici, donc, sa nourrice en bonne santé la porta. Donc, sa nourrice, on va voir comment elle va s'appeler maintenant, elle apporta donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mère qui s'appelle Amina. Donc son père s'appelle Abdullah et sa mère s'appelle Amina. Donc elle l'apporta à sa mère alors qu'il était en bonne santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en bonne santé, sans maladie et il ne se plaignait d'aucun mal. Et il était dans une bonne morphologie. Il avait une bonne morphologie. Ensuite, il dit halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Donc, après il dit fa ba'da shahrayn inshiqaq batni. D'abord, ici, il faut savoir, il dit wa halimatun li ummihi wa adat. La nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Halima. Halima, yani bint Abi Dhu'ayb al-Sa'diyya. Halima, bint Abi Dhu'ayb As-Sa'diyya. Ça, c'est le nom de la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à sa conversion et celle de son mari, cela fait objet d'une divergence auprès des savants. Donc, il la rapporte, donc, Halima vint avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la porta à sa mère à la Mecque. Et ensuite, comme Halima aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a remarqué la baraka qu'il y avait dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle n'avait jamais allaité un enfant comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle essaya de convaincre la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la laisser chez elle encore plus longtemps afin qu'elle profite yani des bienfaits et de la bénédiction qu'il y avait dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme elle craignait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines maladies qu'il y avait à la Mecque et autres, elle a réussi à convaincre la mère de repartir. Donc elle a réussi à convaincre la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam de laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Halima repartir dans son village. Donc sa mère accepta alors par compassion envers lui et Halima repartit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite se produit l'incident de la fente de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est hadithat inshiqaq al-sadr. C'est l'incident de la fente du prophète, donc la fente de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فبعد شهرين انشقاق بطني وقيل بعد 40 من سنه. Donc ici, il faut savoir que cela s'est produit donc 2 mois après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit reparti dans le village de Halima. 2 mois après, certains savants ont dit que donc cet incident-là s'est produit. Et d'autres savants disent que c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 4 ans. Donc il y a une divergence entre les savants dans cela. Parmi les hadiths qui ont été rapportés dans cela, il y a un long hadith dans lequel certains compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, informe-nous te concernant. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, oui, je suis l'invocation de mon père Ibrahim et la bonne nouvelle de mon frère, Isa. Ma mère, alors qu'elle était enceinte de moi, vit une lumière qui sortit d'elle qui éclaira les palais du Sham. J'ai été allaité chez les Benou Sa'd ibn Bakr alors que j'étais avec l'un de mes frères derrière nos maisons, en train de faire paître nos bêtes, deux hommes vêtus de blanc vinrent à moi avec une bassine en or emplie de neige. Ils m'attrapèrent et fendirent ma poitrine. Ils sortirent mon cœur, le fendirent et en sortirent un morceau noir et le jetèrent. Puis ils lavèrent mon cœur et ma poitrine avec cette neige jusqu'à ce qu'il soit purifié. Puis l'un d'entre eux dit à son compagnon, pèse-le par rapport à 10 de sa communauté. Il le fit et je faisais leur poids. Puis il dit, pèse-le par rapport à 100 de sa communauté. Il le fit et je faisais leur poids. Pèse-le par rapport à 1000 de sa communauté. Il le fit et je faisais leur poids. Puis il dit, laisse-le par Allah. Si tu le pesais par rapport à toute sa communauté, il ferait leur poids. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith a été authentifié par Cheikh l'Albani rahmatullah alayhi. Il a été rapporté dans un autre hadith, dans le Sahih Muslim, selon Anas ibn Malik. Il dit, donc Jibril vint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il jouait avec des garçons. Il, c'est-à-dire Jibril, l'attrapa et le jeta à terre. Il lui fendit alors le cœur et le sortit et en sortit et en extrait, c'est-à-dire du cœur, une adhérence. Et dit, c'est la part de Shaytan qui est en toi. Donc c'est la part de Shaytan qui est en toi. Puis il le lava dans une bassine d'or avec de l'eau de zemzem. Puis il le referma, puis il le remit à sa place. Les garçons partirent en courant chez leur mère, c'est-à-dire chez la nourrice, et dirent, Mohammed a été tué. Et là, le voir et le trouva avec le teint ayant changé. Anas dit, je vis les traces de cette cicatrice sur la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ensuite, les savants ont dit que cet incident s'est produit trois fois. La première fois, donc, lorsqu'il était enfant, comme on a dit, deux mois après, donc, qu'il est reparti dans le village. Donc, il avait donc 2 ans et quelques mois. Ensuite, il a été dit que cela s'est produit lorsqu'il a reçu la révélation. C'est la deuxième fois. Et ensuite, avant l'ascension, c'est-à-dire l'Isra ou le Mi'raj. Ce sont les trois fois où le prophète, où cet incident donc s'est produit. Donc la fente de sa poitrine. Ce sont ces trois moments. Et certains savants ont rajouté un quatrième, ils disent que lorsqu'il avait 10 ans. Donc certains disent que ça s'est produit 3 fois, et d'autres disent que ça s'est produit 4 fois. Ensuite, vint le décès de sa mère, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, وَبَعْدَ سِتِّنْ مَعَ شَهْرٍ جَاءِ وَفَاتُ أُمِّهِ عَلَى الْأَبْوَاءِ. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut 6 ans et 1 mois, 6 ans et 1 mois, sa mère partit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine, donc chez les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient Banu Najjar, pour leur rendre visite. Et sur le chemin du retour, sa mère mourut. Donc la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut dans un endroit qui s'appelait Al-Abwa, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 6 ans. Et l'imam Ahmed rapporte, donc d'après Bureida radiallahu anhu, qu'il dit, je sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que nous arrivâmes à Waddan. Et il dit, attendez-moi jusqu'à ce que je revienne. Il partit, puis revint attristé et dit, certes, je me suis rendu à la tombe de Mohammed, c'est-à-dire de sa mère, et j'ai demandé à mon Seigneur l'intercession et il me l'a interdit. Certes, je vous avais interdit de visiter les tombes, visitez-les à présent. Et il a été rapporté dans le Sahih Muslim, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam visita la tombe de sa mère et pleura, faisant pleurer tous ceux qui sont autour de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai demandé la permission à mon Seigneur de demander pardon pour elle et on ne me l'a pas permis. Je lui ai alors demandé la permission de visiter sa tombe et on me l'a permis. Visitez donc les tombes car elles rappellent certes la mort. Ensuite vint le décès de son grand-père, Abdul Muttalib. Donc il dit, وَجَدُّهُ لِلْأَبِّ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بَعْدَ ثَمَانٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ كَذِبٍ. C'est-à-dire, et son grand-père paternel, Abdul Muttalib, mourut après qu'il eut 8 ans. Et il n'y a aucun doute dans cela. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut 8 ans, c'est-à-dire 2 ans après la mort de sa mère, Son grand-père mourut, qui s'appelait Abdul Muttalib. Son grand-père s'appelait Abdul Muttalib. Et il n'y a aucun doute dans cela. C'est-à-dire, cela est fondé et a été rapporté dans les livres de Sira. Et il faut savoir que son grand-père Abdul Muttalib, c'est lui qui se chargea donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'éleva après la mort de son père, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdul Muttalib aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses enfants, plus que ses propres enfants. Et il l'asseyait même à ses assises, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, « Thumma Abu Talibin al-Ammu kafal, khidmatahu thumma ila shami rahal. » Ici, il dit, puis Abu Talib, donc, c'est-à-dire l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le père, donc, c'était le frère de son frère, du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se chargea de ses affaires, puis vers le Cham il voyagea. Donc, Abu Talib, qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le frère, donc, de son père, c'est lui qui se chargea du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort de Abdul Muttalib. Et c'est Abdul Muttalib lui-même qui ordonna donc à Abu Talib de le prendre en charge. Et donc Abu Talib était connu pour prendre soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'occuper de lui. Il se chargea donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui lit les livres de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani verra des choses étonnantes concernant cet homme, dans la manière dont il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a défendu. Néanmoins, il n'a pas choisi l'islam comme religion, il est mort sur la religion de ses ancêtres, c'est-à-dire il est mort sur le kufr. Malgré qu'il aidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le défendait. Donc, après vint le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle vers le Cham, alors qu'il avait 12 ans. C'est-à-dire lorsqu'il eut 12 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyagea vers le Cham. Et ici il dit, وذاك بعد عام 12 وكان من امر بحيره ما اشتهر. Ici, et après que son âge fut de 12 ans, ceci arriva et eut lieu ce qui est connu de l'affaire de Bahira. Bahira, c'était un moine, comme nous allons voir maintenant. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyagea avec son oncle pour le commerce. Il voyagea vers le Cham. Et puis vint donc l'information de Bahira à son sujet. Yani, et celui qui lit ce hadith-là, yani, verra des choses étonnantes et des signes prodigieux qui se sont passés là, dans cette histoire. Parmi ces choses-là, Ibn Kathir dit, donc son oncle partit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le Cham pour faire du commerce, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 12 ans. Et ceci est le summum de la bonté envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il n'y avait personne pour s'occuper de lui à Mecca. Et son oncle et les compagnons qui étaient avec lui, yani, ont vu des choses incroyables par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils sont partis au Cham avec lui. Donc des signes à son sujet. Ce qui renforça la détermination de son oncle dans ce qui lui avait été légué, dans le fait de veiller sur lui et de le prendre en charge. Et il a été, comme cela a été rapporté parmi les signes qui se sont produits lors de ce voyage, ce qui a été rapporté dans Jami' al-Tirmidhi, donc avec une chaîne dont tous les membres sont de confiance, comme les nuages qui ont fait de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'arbre qui s'est penché pour faire de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'annonce du moine Bahira qui avait ordonné à Abu Talib de ramener le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca par peur que les juifs ne lui fassent du mal. Et le hadith, donc, est authentique. Et l'histoire au complet se trouve dans Jami' al-Tirmidhi, d'après le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari, et il le juge Hassan. Tout comme il a été, donc, authentifié par Al-Albani, Ibn Hajar dit, sa chaîne est forte. Je dis cela car certains savants, Allahu Ta'ala alam, je pense que c'est Al-Dhahabi qui a rendu faible ce hadith-là. Bidnillah, nous allons nous arrêter ici, car il y a eu beaucoup d'informations. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.